Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à chercher l'Épître aux Hébreux. Jésus est meilleur, toujours meilleur. C'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui. On va voir qu'il est un meilleur médiateur. Un meilleur médiateur. Et aujourd'hui, j'ai le défi de parcourir Hébreux chapitre 5 jusqu'au chapitre 9. Accrochez vos ceintures. Le médiateur dans les Écritures, c'est aussi le sacrificateur. Et l'image du sacrificateur nous est donnée au travers de la personne de Aaron, le premier souverain sacrificateur. Aaron, c'était le frère aîné de Moïse et le premier grand prêtre. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament était un personnage unique puisqu'il représentait le peuple devant Dieu et il servait en quelque sorte de médiateur entre Dieu et son peuple. Comme on l'a déjà évoqué dans les études précédentes, l'auteur inconnu de l'Épître aux Hébreux s'adresse à la communauté juive de son époque dont certains ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais d'autres n'avaient pas encore fait ce pas et ils étaient attirés par le message du salut, mais pas encore pleinement engagés dans la foi en Christ. De plus, la communauté était confrontée à la menace grandissante de la persécution et c'est pourquoi certains étaient tentés de rétrograder Jésus comme... du rang de fils de Dieu à celui de simple prophète ou un ange ou un super sacrificateur. Aujourd'hui encore, dans bien des domaines et dans bien des milieux, vous pouvez parler de Jésus comme prophète ou comme super conducteur, comme Moïse ou comme Josué. Mais gare à vous si vous parlez de lui comme Dieu. Or, si Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas fait la purification de nos péchés. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas assis sur le trône. Il ne règne pas éternellement comme souverain sur tout l'univers. Et vous êtes encore dans vos péchés et dans la condamnation de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Voilà pourquoi l'auteur prend un certain temps pour démontrer que Jésus-Christ est meilleur que les anges, meilleur que Moïse, meilleur que Josué et meilleur qu'Aaron. Et que tous les souverains sacrificateurs qui sont venus après Aaron, Jésus est meilleur que tous. Et parce qu'il est meilleur, ce serait une folie de l'abandonner. Ce serait une folie de retourner en arrière. Ce serait une folie, même si nous devions souffrir pour cela. Et nous devrions au contraire nous approcher de lui avec confiance. Et donc, la section à l'étude aujourd'hui couvre les chapitres 5 à 9, mais par bonheur, l'auteur résume sa pensée au chapitre 8. Alors on va lire simplement le chapitre 8, si vous voulez bien. Regardez comment ça commence, Hébreux 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que lui aussi est aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il avait allé construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Je vous invite à considérer aujourd'hui que Jésus est meilleur médiateur. Tout d'abord, on va essayer de comprendre la nécessité d'un médiateur. On verra ensuite un médiateur parfait et puis un médiateur permanent. Regardez avec moi la nécessité d'un médiateur. Mais maintenant, verset 6, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un médiateur? Dieu est saint et il est juste. Et nous, nous sommes marqués par le péché. Le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, dit Ésaïe. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cette barrière spirituelle rend impossible pour les hommes d'accéder directement à Dieu. D'autant que le péché, c'est rejeter Dieu. Donc nous sommes ennemis. Il y a conflit entre Dieu et les hommes. Impossible pour nous de nous approcher de Dieu par nous-mêmes. Ce qui aggrave la situation, c'est que Hébreux chapitre 9, verset 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ?» Et il dit en chapitre 10, verset 31 « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Voilà pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un médiateur. Dans l'Ancien Testament, cette séparation était illustré par le tabernacle, puis par le temple. Le tabernacle, c'était un lieu où, dans lequel Dieu avait fait sa demeure, entre guillemets. Sa présence se manifestait par une gloire, par une lumière éclatante, dans une partie de ce temple qui était fermée par un voile épais et appelé le lieu très saint. Personne ne pouvait pénétrer à l'intérieur de ce lieu très saint sans perdre la vie. Seul le souverain sacrificateur, le médiateur, pouvait le faire une fois par an dans son rôle de médiateur, après s'être longtemps purifié lui-même pour présenter le sang d'un bouc afin que le péché du peuple soit pardonné. Bien entendu, les hommes continuaient à pécher. Alors, chaque année, il fallait reproduire ces sacrifices. Le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Au chapitre 8 et au verset 5, il est dit que les sacrificateurs célèbrent un culte, les sacrificateurs sur la terre célèbrent un culte qui est image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse a reçu une image de ce que Dieu fait dans le ciel, et il lui a demandé de reproduire cette image sur la terre. Donc le tabernacle, là où vont sacrifier les sacrificateurs, c'est simplement une image, une ombre. La réalité, elle se fait dans le ciel, dans la gloire, dans la présence même de Dieu. Dieu voulait montrer à son peuple que l'on ne peut entrer dans la présence de Dieu, dans le ciel, tel que nous sommes. En Hébreux chapitre 9, au verset 8, il est écrit « Le Saint-Esprit montrait par là, par le lieu très saint fermé, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » Nous sommes naturellement tenus, séparés de Dieu. Le péché exige une réparation. Le péché exige un sacrifice. Selon la loi, l'ancienne alliance, le sang des animaux offert en sacrifice permettait de couvrir temporairement les péchés. Mais il était insuffisant pour enlever définitivement le péché. Ils étaient eux aussi, les sacrifices, l'image et ombre d'un sacrifice plus excellent qui viendrait par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un médiateur. Et ce médiateur, c'est-à-dire, aujourd'hui encore, on a besoin parfois de médiateurs pour essayer de concilier deux parties qui sont en conflit. Et Jésus est ce médiateur et il est aussi le moyen de nous réconcilier. Dans les chapitres 5 à 7, l'auteur décrit Christ comme un sacrificateur parfait. Et si vous allez avec moi dans le chapitre 5, vous verrez dans au verset 4 notamment, 3 et 4, qu'il y avait deux conditions requises pour être un souverain sacrificateur. La première condition, c'était qu'il fallait être choisi par Dieu. Verset 4, pour le service. Le souverain sacrificateur n'était pas élu, il était choisi, directement élu par le peuple, il était choisi par Dieu, il était Aaron et la descendance d'Aaron. Si vous n'étiez pas de la descendance d'Aaron, vous ne serez jamais souverain sacrificateur. La deuxième condition requise pour le sacrificateur, c'était d'être un homme compatissant. Il devait comprendre ses semblables. Il devait s'identifier à leur propre faiblesse. Puisque lui-même était faible, il était sujet au péché et il offrait quotidiennement des sacrifices, des offrandes pour ses propres fautes. Mais tout son service, se faisait sur la terre. Image imparfaite et ombre d'une réalité céleste que Jésus-Christ devait accomplir. Jésus a également été choisi. Il a été choisi par Dieu lui-même comme souverain sacrificateur, non comme descendant d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et dans les chapitres 5, 6 et 7, on trouve 6 fois la mention du psaume 110, que l'on trouve par exemple au verset 5, chapitre 5, verset chapitre 5, verset 5. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Au chapitre 5, verset 6, verset 10, chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 7, verset 17 et verset 21, l'auteur rappelle ces versets du psaume 110. Melchisédek, qui est cet homme ? Melchisédek, c'est un personnage énigmatique que l'on rencontre une seule fois dans le livre de la Genèse et auquel Abraham donne la dîme, 10% de tous ses biens, après avoir été vainqueur de ses ennemis. On trouve ça en Genèse 14. Il nous est dit que ce Melchisédek, au chapitre 7, versets 2 et 3, il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Melchisédek, ça signifie roi de justice. Melek, c'est roi, Sédek, justice. Et il est ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. avant tous les autres sacrificateurs, puisque Abraham vient avant Moïse et Aaron. Donc c'est un temps où il n'y avait pas encore la loi, là où il y a un temps où il n'y avait pas encore de souverain sacrificateur, ni aucun sacrificateur et ni tabernacle. Dieu avait déjà établi Melchisédek pour être un souverain sacrificateur du Dieu très haut. Jésus est de la tribu de Judas, non de la tribu de Lévi, Moïse, Aaron et les autres. Alors, il n'aurait jamais pu être sacrificateur sur la terre selon la lignée d'Aaron, mais il tient sa sacrificature par Melchisédek. Et la sacrificature de Melchisédek est plus excellente que celle d'Aaron, plus élevée que celle d'Aaron. La deuxième condition, c'était que Jésus soit aussi pleinement compatissant. Or, Jésus est pleinement homme. Aussi, il peut aussi compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en tant qu'homme, en toute chose, mais sans jamais commettre le péché. Certaines personnes pensent que Dieu est un être lointain, dont le principal attribut est l'indifférence, dépourvu de tout sentiment, de toute émotion. Mais le Dieu de la Bible s'est fait homme. Il a connu les tentations. Il a connu les épreuves liées à la nature humaine. Parce qu'il avait un corps humain, il était sujet à la fatigue et à la douleur, tout comme nous. Il a eu faim. Il avait une âme humaine qui a été troublée, qui a été accablée par la tristesse. Il a pleuré de chagrin. Il a prié avec larmes. Laissez-moi vous lire chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez-vous, Christ est parfaitement homme. Et parce qu'il est parfaitement homme, il peut vous comprendre, nous comprendre. Il a ressenti la puissance du péché. Il a été tenté en toute chose, nous dit Hébreux 4, 15, sans jamais connaître le péché. S'il n'avait pas vécu ce que nous vivons, ni ressenti ce que nous ressentons, il n'aurait pas pu être un souverain sacrificateur parfaitement compatissant. Lorsque nous sommes troublés, blessés, découragés ou soumis à une grande tentation, nous souhaitons partager nos sentiments et nos besoins avec une personne qui puisse nous comprendre. Mais personne, mieux que Christ, ne peut vous dire « Je comprends ». Aucune oreille, aucune épaule, aucun cœur ne peut mieux vous comprendre que Jésus-Christ. Certains pensent que Jésus, puisqu'il n'a jamais péché, il ne sait pas non plus ce que c'est que la tentation. Il a vécu une vie protégée, il n'a pas conscience de la force de la tentation, celle à laquelle nous succombons si facilement. Mais C.S. Lewis a écrit en réponse à cette objection, écoutez cela, « Seuls ceux qui essaient de résister à la tentation savent à quel point elle est forte. Un homme qui cède à la tentation au bout de 5 minutes ne sait tout simplement pas ce qu'il aurait ressenti 1 heure plus tard. Le Christ, parce qu'il est le seul homme à n'avoir jamais cédé à la tentation, est aussi le seul homme à savoir pleinement ce que signifie la tentation. Jésus peut compatir. Jésus peut vraiment compatir à notre douleur et à notre mort parce qu'il a connu une douleur atroce et qu'il est allé jusqu'à la mort. Et il peut sympathiser avec nous dans nos tentations de péché parce qu'il a été tenté, tenté en toute chose. Il n'y a pas une chose qui vous tente que Jésus-Christ ne puisse pas être tenté. Il a peut-être été tenté, il a certainement été tenté de mentir pour sauver sa vie. Mais il ne l'a pas fait. Tenté de voler pour aider sa pauvre mère à la mort de son père, mais il ne l'a pas fait. Tenté de convoiter toutes les belles choses que Zachée possédait. Tenté de déshonorer ses parents lorsqu'ils étaient plus sévères que les autres. Tenté de se venger lorsqu'il était accusé à tort. Tenté de convoiter une femme. Tenté de s'apitoyer sur son sort lorsque ses disciples se sont endormis à la dernière heure de son épreuve alors qu'il leur avait demandé de prier avec lui. Alors qu'il était en lutte terrible, ils se sont endormis. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu murmurer contre Dieu lorsque son cousin Jean-Baptiste est mort à cause d'une danseuse. Il aurait pu se moquer de ses accusateurs lorsqu'ils n'ont pas pu répondre à ses questions. Mais il ne l'a pas fait. Jésus connaît la bataille. Il s'est battu jusqu'au bout. Et il a vaincu le monstre à chaque fois. Il a donc été mis à l'épreuve comme nous. Et la Bible dit qu'il est un grand prêtre compatissant. Et plus encore, Jésus est Dieu. Aussi, il tient également la position divine à l'égard de la justice. De la sainteté. Il est le seul qui puisse à la fois tenir la main des hommes et celle de Dieu. Il est le médiateur parfait. Mais Jésus est aussi le médiateur, un médiateur permanent. Du fait de leur nature humaine, les sacrificateurs étaient sujets à la mort. Regardez chapitre 7, verset 23. Il est dit « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. » Il y a eu des sacrificateurs montrant en grand nombre parce que il y avait une faiblesse dans le sacerdoce lévitique et la loi de Moïse. Et cette faiblesse, c'était vraiment ces hommes. C'était les souverains sacrificateurs eux-mêmes. Ils étaient pécheurs, sujets à la mort. Imaginez un instant le péché comme un ulcère. Un ulcère, c'est une plaie qui ne guérit pas. Une de nos sœurs de l'Église a atteint d'ulcère à la jambe. C'est extrêmement douloureux. Ça ne guérit pas. Les sacrificateurs mortels et le sacerdoce lévitique, les sacrifices qui sont répétés, le temple, tout cela, ce serait un peu comme un pansement sur le péché. Un pansement qui soulage un temps, mais qui nécessite d'être changé sans cesse. Renouveler régulièrement, quotidiennement même, sans jamais apporter la guérison. Imaginez, après avoir fait cela pendant des années, on aurait pu dire, mais les pansements ne fonctionnent pas. Le sacerdoce ne fonctionne pas. Les sacrifices ne fonctionnent pas. Jamais un seul a été guéri par les sacrifices. Maintenant, imaginez un pansement qui soulagerait et n'aurait jamais besoin d'être changé, qui ne se souillerait jamais et ne perdrait jamais son efficacité. Un tel pansement, s'il était apposé sur un ulcère permettrait de dire que la personne est guérie. Et que ferions-nous des des pansements d'autrefois. Les pansements d'autrefois n'auraient plus aucune utilité. On les jetterait. Eh bien, c'est à peu près la même différence qu'il y a entre le sacerdoce du Lévitique et celui de Jésus-Christ. Chapitre 7, versets 24 et 25. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. On peut imaginer facilement que les sacrificateurs, dans leur service, voulaient guérir le peuple de l'ulcère du péché. Mais ils ne le pouvaient pas. Ils en étaient incapables. Mais Jésus, il est écrit ici, mais Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Il peut le faire parce qu'il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Parce que son pansement, la réparation qu'il accomplit pour nous à cause de, pour nos péchés, est définitive. Elle est parfaite. Elle est permanente. La seule condition, s'approcher de Dieu par lui. Il n'y a aucune restriction. Il est dit ici, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Christ. La seule condition qui est donnée ici, c'est de s'approcher de Dieu par lui, par Christ. Il n'a pas de restriction, pas d'ulcère trop sévère, pas de péché trop grand. Il faut s'approcher de Dieu par lui, c'est-à-dire avoir foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a pris sur lui notre condamnation. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Toutes les fois que nous péchons, Jésus dit au Père, « Père, porte cela aussi sur mon propre compte. Mon sacrifice a déjà payé cette dette. » La nouvelle alliance garantit que la peine du péché n'est pas seulement couverte, mais elle est payée. Parce que l'homme parfait a donné sa vie. Notre culpabilité est ôtée, notre conscience est purifiée. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit Romains chapitre 8, verset 1. C'est cela la nouvelle alliance. Elle remplace l'ancienne alliance, dont le temple était le lieu central. C'est là que les sacrificateurs exerçaient les sacrifices. C'est là que tout le sacerdoce se faisait, à Jérusalem, dans le temple. Et vous savez, dans notre passage, chapitre 8, verset 13, il est dit, en disant une ancienne alliance, il a déclaré, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne, la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. On pense que l'épître aux Hébreux a été écrite en l'an 68 de notre ère, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, les armées de Titus, l'empereur général romain, sont entrées dans Jérusalem et ont tout détruit. Le temple, jamais plus le temple n'a été dressé, jamais plus un seul sacrifice sanglant n'a été opéré à Jérusalem depuis. Ce qui a vieilli, ce qui est ancien, est proche de disparaître. Vous voyez un peu le point capital que l'auteur vient de décrire ici à ce moment-là. Ceux qui sont tentés de retourner vers les sacrifices de l'ancienne alliance, ils sont fous! Ils sont fous. C'est une folie de vouloir revenir en arrière vers un système imparfait, temporaire et complètement impuissant pour transformer les cœurs. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, non seulement expie les péchés, mais il transforme les cœurs et les consciences des croyants. Par son sacrifice, il introduit une relation personnelle et transformatrice avec Dieu. Regardez chapitre 8, verset 10, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ça, c'est une prophétie de 7 siècles avant Jésus-Christ, faite par Jérémie. Mais voici, de la part de Dieu, « Mais voici l'alliance que je ferai, dit l'Éternel, avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La paix a été faite par Jésus-Christ. L'alliance nouvelle et éternelle a été scellée par son sang, de sorte que nous puissions tous avoir une pleine paix avec notre Dieu et le connaître intimement par son esprit. Quelques applications, juste deux, pour terminer. Deux applications qui traversent l'épître et que l'on trouve en introduction de cette section. Chapitre 4, versets 14 à 16. J'aimerais bien que vous preniez avec moi ces versets. Chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Puisque Jésus et souverain sacrificateur parfait et permanent, que son offrande n'a pas été portée ici-bas, mais dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Maintenant que le voile du temple a été déchiré et que l'accès jusqu'à la personne de Dieu a été ouverte par le voile de sa chair, chapitre 10, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et deuxième application, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. La profession de notre foi est simplement notre espérance inébranlable que Dieu est pour nous. Dieu, quand on devient un croyant en Jésus-Christ, Dieu est pour nous. Dieu est définitivement pour nous. Dieu est parfaitement pour nous. Il est de façon permanente pour nous. Et il travaillera à nous faire entrer dans son repos éternel et sa joie définitive. Alors accrochez-vous. Accrochez-vous à cela. Vous avez un grand souverain sacrificateur. Il intercède pour vous. Et il est toujours exaucé. Ça, c'est la première conclusion. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Je ne sais pas s'il y a une consolation plus grande que celle-là. Dieu est pour nous. Dieu se tient à nos côtés. Dieu est pour nous, quelles que soient nos situations. Il est pour nous. Il plaide en notre faveur. Il est à nos côtés. Il n'est plus jamais notre juge, notre accusateur. Il est pour nous. Il est là en soutien avec nous. Dans notre lutte face à la tentation, face au péché, il est là avec nous. Et puis la deuxième application, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Chacun de nous a un besoin d'aide. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons des besoins. Nous avons des faiblesses. Nous sommes confus. Nous avons des limites de toutes sortes. Nous avons besoin d'aide. Mais chacun de nous a aussi autre chose. Il a le péché. Et c'est pourquoi, au fond de notre cœur, nous savons que nous ne méritons pas l'aide dont nous avons besoin. Et donc, nous nous sentons piégés. J'ai besoin d'aide pour vivre ma vie, pour faire face à la mort, pour faire face à l'éternité. J'ai besoin d'aide pour ma famille, pour mon conjoint. J'ai besoin d'aide pour mes enfants, pour ma solitude. J'ai besoin d'aide pour mon travail, ma santé, mes finances. J'ai besoin d'aide. Mais je ne mérite pas l'aide dont j'ai besoin. Alors que puis-je faire ? Et quelque part, nos cœurs nous accusent. Le diable n'a même pas besoin de se pointer. Nos propres cœurs nous accusent. Alors, parfois, je peux essayer de tout nier et d'être un surhomme. Pas besoin de Dieu, pas besoin d'aide. Ou je peux essayer de tout noyer et jeter ma vie dans la frénésie de plaisirs sensuels. Ou je peux simplement céder à la paralysie du désespoir. Mais notre texte déclare ici que Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur, choisi par Dieu pour briser ce désespoir, pour humilier ce surhomme et pour sauver ce misérable qui se noie. Oui, nous avons tous besoin d'aide. Oui, aucun de nous ne mérite l'aide dont nous avons besoin. Mais le trône de Dieu est un trône de grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. Je n'ai pas besoin de venir avec mes mérites. Je n'ai pas besoin de venir avec une conscience complètement purifiée. Je peux venir demander grâce et obtenir tout ce dont j'ai besoin en Christ. On a besoin d'être secourus. Nous ne méritons pas de l'être, mais nous pouvons l'être par grâce. C'est pour cela que dans toute l'Épître, l'auteur répète cette vérité. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Venez à Jésus avec confiance et faites connaître vos besoins. Amen.